Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle analyse de fonds. Aujourd'hui, on s'attaque à un document qui, honnêtement, se lit presque comme un thriller géopolitique, sauf que là, tout est réel.
Ouais, 100% réel. Et c'est ça qui fait un peu froid dans le dos, en fait.
C'est clair. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter un dossier spécial de la revue marocaine Logi Media. C'est un numéro qui date de mars 2026 et qui est sobrement intitulé « Agriculture Maroc 2026 ».
Un dossier vraiment massif, ouais.
Et ce document offre une analyse hyper percutante sur la redéfinition totale de la souveraineté alimentaire d'une nation entière. Et ça, face à une crise hydrique sans précédent.
Et il faut bien préciser qu'on n'est pas du tout sur de la théorie en l'air, hein. C'est un rapport ancré dans l'urgence absolue, basé sur des analyses récentes de conférences majeures au Maroc.
Alors, décortiquons tout ça. Le paradoxe central de notre document, c'est comment un pays dont l'agriculture consomme, disons, près de 75% de l'eau mobilisée, peut continuer à se nourrir quand cette même eau est littéralement en train de s'évaporer.
C'est toute la question. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on balaye tout de suite l'idée d'une simple mauvaise météo. Le rapport montre qu'on est face à un changement de paradigme irréversible.
C'est plus juste un mauvais cycle des années 90, quoi.
Exactement. L'eau, ce n'est plus cette ressource abondante qu'on peut juste aller pomper un peu plus loin. C'est devenu la contrainte majeure. Ça touche vraiment au fondement même de la survie économique et sociale du pays.
Du coup, on pourrait se demander pourquoi on s'intéresse à ça de si près. Mais ce qui se passe au Maroc, c'est un laboratoire à ciel ouvert.
Carrément, oui. Un aperçu de notre futur à tous.
Voilà. Les défis qu'ils affrontent là-bas, c'est exactement ce que d'autres nations devront inévitablement gérer avec le bouleversement climatique mondial.
C'est comme regarder la bande-annonce des politiques publiques mondiales de demain.
Et pour bien comprendre, il faut plonger dans la réalité du terrain. Ce que le rapport appelle le choc de la réalité hydrique.
La fin d'une époque, comme ils disent.
Ouais. Les chiffres qu'ils avancent, ils frappent fort. Historiquement, la moyenne annuelle des apports en eau dans les barrages, c'était autour de 10 milliards de mètres cubes.
C'était la norme absolue sur laquelle tout était basé.
Sauf que, sur la période 2018-2025, cette moyenne s'est effondrée. On est tombé à moins de 4 milliards. 7 années consécutives de sécheresse qui ont juste brisé toutes les statistiques.
Mais le plus fou dans l'analyse de l'ODJ Média, c'est que le vrai problème n'est même pas cette baisse globale, c'est l'extrême volatilité du climat.
Le fameux yo-yo climatique.
Ouais, le pays passe de déficit de 80% dans certaines zones à des surplus diluviens totalement soudains. Et ces surplus, ils sont impossibles à stocker parce que les sols sont trop secs ou les barrages mal situés.
Donc, la planification agricole classique d'une année sur l'autre, c'est fini.
C'est purement et simplement obsolète, oui. La notion de normal a disparu.
Et sur le terrain, c'est un drame silencieux. Le rapport donne des exemples très concrets. On parle de dizaines de milliers d'hectares de vergers, surtout des agrumes, qui ont été purement et simplement arrachés.
Il faut imaginer le choc pour un agriculteur. Un verger, c'est des années d'investissement.
Oui, sans eau, pas de pâturage. Donc on importe le fourrage au prix fort.
Et du coup, pour compenser, la pression se reporte massivement sur les nappes phréatiques.
C'est l'un des points les plus critiques soulevés par la revue. Les prélèvements dépassent largement le renouvellement naturel. On creuse toujours plus profond.
Ce qui coûte une fortune en énergie en plus.
Et sur les côtes, ça fait remonter l'eau de mer dans les terres, ce qui salinise les sols de façon irréversible. Les auteurs décrivent ça comme une véritable dette hydrique. On sacrifie l'eau des générations futures juste pour maintenir l'illusion qu'on peut encore faire l'agriculture d'hier.
Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie pour les décideurs? Comment un État peut repenser tout ça? Le rapport prend vraiment le temps de démêler des concepts qu'on entend tout le temps dans les médias et qui sont souvent confus.
Oui, la sécurité, la souveraineté, la résilience. On mélange souvent tout ça.
Commençons par la sécurité alimentaire. Classiquement, c'est juste s'assurer que les gens ont à manger, même si on importe massivement.
C'est la vision traditionnelle. Sauf que le document souligne à quel point cette dépendance aux importations est devenue un piège stratégique.
À cause de l'instabilité mondiale ?
Exactement. Depuis la guerre en Ukraine et la flambée des cours des céréales, on a bien vu que le marché mondial ne protège absolument pas un pays en temps de crise.
Du coup, il y a la tentation de passer à l'extrême inverse. La fameuse souveraineté alimentaire, qu'on confond souvent avec l'autosuffisance totale. L'idée de fermer les frontières et de tout produire sur place.
Mais si l'on relie cela à une perspective plus large, surtout avec la contrainte hydrique, le rapport est catégorique. C'est une dangereuse illusion.
Faire pousser du blé tendre qui demande énormément d'eau alors qu'il n'y a plus d'eau, c'est juste suicidaire.
C'est ça. Épuiser les réserves pour une autarcie de façade, ça n'a aucun sens. Pour les auteurs, la vraie souveraineté, c'est le pouvoir de décider, C'est choisir consciemment son niveau de dépendance extérieure pour préserver son eau stratégique.
Et c'est ce qui nous amène à la synthèse des deux, le concept clé de cette analyse, la résilience alimentaire.
La capacité à encaisser les chocs sans s'effondrer.
Voilà. Accepter d'importer les produits très gourmands en eau, mais en diversifiant les partenaires et en créant des stocks énormes. Tout ça pour concentrer la fameuse goutte d'eau marocaine sur les cultures vraiment vitales.
Et c'est là qu'on comprend qu'un marché totalement libre ne peut pas gérer cette rareté. Le rapport met en lumière l'émergence d'un État stratège indispensable.
Avec une vraie vision à long terme, on découvre les PDAIER dans le PEXT, les plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau, des plans prévus jusqu'en 2050.
L'ambition est colossale, garantir 100% de l'eau potable et 80% de l'irrigation, et ce, en intégrant directement les pires scénarios climatiques dans les calculs.
On ne prie plus pour la pluie, on planifie le manque d'eau. Et les solutions systémiques mises en place forment ce qu'ils appellent le mix hydrique. J'ai trouvé ce passage fascinant.
Oui, c'est la création artificielle de la ressource. Le mix repose sur trois grands piliers. Le premier, c'est le dessalement de l'eau de mer à une échelle totalement inédite.
Le but, c'est que les grandes villes côtières, comme Casablanca, fabriquent leur propre eau potable depuis l'océan.
Pour qu'elles arrêtent de siphonner les barrages intérieurs.
Ce qui libère l'eau douce pour l'agriculture.
Et pour bouger cette eau douce, on a le deuxième pilier, les autoroutes de l'eau.
Les transferts interbassins. Le rapport cite ce transfert incroyable entre le fleuve Sebou, le Bouré Greg et l'Oum Herbia.
C'est gigantesque. On déplace carrément des excédents d'eau d'une région à l'autre, comme une transfusion sanguine géante pour sauver les zones agricoles asséchées.
Et on ajoute le troisième pilier, la réutilisation massive des eaux usées traitées. Sauf que l'analyse pointe un enjeu majeur, le fameux nexus eau-énergie.
Dessaler des millions de litres et les pomper sur des centaines de kilomètres, ça consomme une énergie folle.
Énorme. Et si le Maroc devait faire ça avec du gaz importé ou du charbon, il échangerait juste sa dépendance climatique contre une dépendance énergétique et financière totale.
D'où le couplage massif de toutes ces infrastructures avec les énergies renouvelables. Éolien, solaire.
C'est vital pour garantir des coûts prévisibles et s'affranchir des chocs géopolitiques mondiaux. C'est une pensée systémique vraiment impressionnante.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que malgré toutes ces infrastructures grandioses, le réveil agricole reste très douloureux.
La fin de l'abondance, encore une fois.
On ne peut plus planter n'importe quoi juste parce que ça rapporte à l'export. La contrainte hydrique dicte sa loi avant la rentabilité financière.
Ce qui amène le document à démonter un grand mythe technologique. L'idée que le goutte-à-goutte va tout sauver.
Oui, l'efficience de l'irrigation. On se dit souvent que si on utilise moins d'eau par plante, le problème est réglé.
Sauf que le rapport rappelle une loi économique implacable. Si on ne contrôle pas les surfaces, cette technologie peut même aggraver le problème.
C'est le fameux effet rebond, ou le paradoxe de Jevons.
Exactement. L'agriculteur consomme moins par plante, donc il se sent en sécurité. Et il en profite pour planter deux fois plus de surface.
Et à la fin, le niveau de la nappe phréatique baisse quand même de manière catastrophique. La technologie ne remplace pas la sobriété.
Cela soulève une question cruciale et très dure socialement. L'État doit imposer cette sobriété. Il doit dire à certains d'arrêter des cultures très lucratives.
Et ça risque de broyer les petits agriculteurs. Le texte met en lumière ce clivage. Les grandes exploitations ultra-capitalisées vont pouvoir investir, s'adapter, changer de culture.
Mais le petit exploitant qui a moins de 5 hectares, celui qui représente la stabilité sociale des campagnes marocaines, sans un soutien étatique, massif, sans subvention directe, cette transition risque de briser la cohésion rurale.
Donc le coût social de cette adaptation est lourd. Si on doit faire la synthèse de toute cette analyse fournie par l'ODJ Media, je dirais que la grande leçon, c'est que l'adaptation, c'est de la lucidité brutale. Produire moins, mais beaucoup mieux, de manière flexible.
Et surtout que le marché libre est incapable de réguler cette rareté. Il faut un État visionnaire qui assume des choix impopulaires pour sauver l'essentiel.
Tout à fait. Et pour clore cette exploration, je sais que tu voulais partager une dernière réflexion, quelque chose qui prolonge vraiment la logique de ce qu'on vient de voir.
Oui, c'est une question dérangeante qui découle naturellement de la raréfaction de l'eau à l'échelle mondiale. Si l'eau détermine de façon aussi absolue ce qu'un pays peut produire, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la naissance d'un marché mondial de l'eau virtuelle ?
De l'eau virtuelle ? Tu veux dire l'eau qui a servi à produire les denrées qu'on échange ?
Exactement. Un cargo de blé, c'est finalement un immense bloc d'eau virtuelle transféré d'un continent à l'autre.
Ah oui,
vu comme ça.
Donc, dans les prochaines décennies, les pays qui ont encore de grandes réserves d'eau douce abondantes pourraient bien devenir les nouvelles superpuissances hégémoniques.
En remplaçant l'influence des pétro-États ?
C'est ça. Utiliseront-ils leurs excédents agricoles, gorgés de leur eau nationale, comme une arme diplomatique face à des nations structurellement assoiffées ? C'est une perspective redoutable.
Et c'est clair que ça redessine toute notre compréhension des rapports de force géopolitiques futurs. Une sacrée piste à méditer pour nos auditeurs. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci, c'était passionnant.